Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole, qui est une parole de vie pour nous, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as mis sur le cœur de Matthieu. On veut le recevoir comme une parole de ta part pour nos vies. Merci de déguiser nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs, on t'apporte nos cœurs pour que cette parole qui va nous être donnée bien, porte du fruit dans nos vies, accomplisse ta volonté. Dans cette assemblée que nous formons dans nos vies, à chacun d'entre nous. Seigneur, viens régner par ta parole au milieu de nous. Viens nous enseigner, nous reprendre, nous convaincre. Merci, on s'attend à toi. On est tout ouïe, Seigneur, car on a goûté combien tu es bon. Amen.
Amen. Aider, amen. C'est la seule qui a dit amen, donc je la cite. C'était bon, merci beaucoup pour ce temps de louange. Fred, c'est cool de t'avoir avec nous. Hein. T'es bourré de talent, c'est incroyable quand même ça. Il y en a certains à qui Dieu donne 2, 3. Et il y en a un qui me dérange plus que les autres chez toi, c'est ton talent pour jouer au badminton mieux que moi. Celui-là, non, ne ris pas, toi, parce que toi, plein de talent, et c'est merveilleux de voir ça, et c'est super de pouvoir louer le Seigneur avec vous et tous ensemble, avec Fred et puis tout le monde. Mais je voulais souligner, Fred, tu rejoins le groupe Louange, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un jour apparemment spécial. Enfin, pour certains en tout cas, pour les caisses des magasins et des restaurants. C'est la Saint-Valentin. Alors, je vais pas en faire tout un pataquès ce matin. Pour pas mettre mal à l'aise, encore plus les maris qui avaient oublié qu'on était le 14 février ce matin. Non, mais j'ai tout de même choisi ce matin de vous parler d'un couple dans la parole de Dieu. On est dans notre série de messages sur réveiller les héros et on est dans la troisième message de cette série de messages réveiller les héros. Si vous n'avez pas entendu les messages, vous pouvez aller sur internet, sur notre site eery.ch et puis il y a les messages ainsi que d'autres, mais il y a aussi les deux premiers messages que j'ai prêchés sur cette série. Et aujourd'hui, je me disais, quelle occasion super dans cette série réveiller les héros de prendre un couple héroïque. Alors, j'aimerais vous parler ce matin d'Aquilas et Priscille. En creusant ces textes, en me remettant dans ces textes d'Aquilas et Priscille, c'est Jean-Jacques Levis qui prêchait dernièrement, puis qui a pris aussi cet exemple-là. J'aimerais apporter d'autres facettes. Je vais pas reprendre ton message, t'en fais pas, Jean-Jacques. Hein, j'ai pas fait. En même temps, il y a pas de copyright. Enfin, normalement, t'as pas déposé ça, mais je vais pas refaire un remake de ton message. Mais j'ai aimé ce couple en creusant la parole de Dieu cette semaine. Ça va? Tout va bien? Ok. S'il y a un petit problème, il faut me dire, je prends l'autre micro à main direct. Ça va, Joël? Merveilleux. Ok. Voilà. La Bible, j'ai quelque chose de particulier. Figurez-vous qu'ils ne sont jamais mentionnés séparément dans la parole de Dieu. À chaque fois qu'on voit un texte sur eux, ils sont toujours mentionnés ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient toujours collés l'un à l'autre, certainement pas, mais la Bible les mentionne de cette façon et il y a certainement une belle leçon ou deux belles leçons à en tirer. Je crois que Dieu aime voir ceux qui sont unis, hommes et femmes, œuvrés ensemble, unis dans leur complémentarité, comme des exemples qui donnent envie, comme des exemples qui donnent envie pour faire avancer le royaume de Dieu, mais aussi comme des modèles qui reflètent Jésus dans leur couple au milieu de cette société toute déboussolée dans beaucoup de domaines en lien avec le couple et la famille. Vous êtes avec moi ? Au jour d'aujourd'hui, où la famille est malmenée, où les valeurs de la fidélité à son conjoint sont bafouées, où l'adultère est banalisé, tellement autour de nous, dans les films, les séries télévisées, les magazines, peu importe, qu'on voit ces choses-là viennent de plus en plus comme un courant subtil depuis déjà des années, mais de plus en plus fort, de plus en plus, c'est devenu la normalité maintenant. Je crois que c'est de l'ordre de l'héroïsme aujourd'hui que de voir des couples qui durent. À chaque fois, je suis encouragé, béni, d'entendre des couples plus âgés qui disent « Ben nous, on a 30, 40, 50 ans de mariage. » C'est magnifique, mais ça devient des exceptions. Ça devient, on les regarde avec « Ah ouais, ah bon, waouh !» C'est pas normal pour le monde, de moins en moins. Des couples qui durent, mais qui trouvent leur bonheur à œuvrer ensemble pour Dieu aussi. Pas juste qu'ils supportent, mais qu'ils trouvent du bonheur à œuvrer ensemble. Alors dans le couple d'Aquilas et Priscille, il n'y a pas de machisme déplacé de la part d'Aquilas, hein, comme on pourrait trouver ça aujourd'hui, mais il n'y a pas non plus de féminisme exacerbé chez Priscille, comme on pourrait en trouver aussi aujourd'hui. On les retrouve ensemble, complémentairement unis. Alors certainement qu'ils étaient, complémentaires, chacun avec sa personnalité. Mais ils sont aussi capables de faire les mêmes choses ensemble, on va le voir, ensemble sans se marcher dessus. Ils font des tentes ensemble, ils fabriquent des tentes, ils enseignent ensemble, ils voyagent ensemble. Et on va découvrir ça ensemble. J'aimerais, tout comme je l'ai fait pour Joseph, il y a 2 semaines en arrière, je crois, j'aimerais vous raconter l'histoire. On peut le lire dans Actes chapitre 18, vous pourrez lire le texte chez vous à la maison, je vais citer quelques bribes de ce texte-là, mais je vais vous raconter l'histoire. La première mention d'Aquilas et Priscille se trouve dans Actes 18, je l'ai dit tout à l'heure, et je vous raconte un bout de leur histoire, celle qu'on connaît, celle qu'on peut deviner un peu entre les lignes, avec le contexte de l'époque, parce qu'on ne parle pas, il n'y a pas autant de textes que des textes sur Joseph, par exemple. Alors Priscille et Aquilas vivaient dans la période du début de la nouvelle Église. L'apôtre Paul était en train d'implanter des églises un peu partout dans les pays et dans les régions païennes, et ils vivaient, eux, dans la grande cité de Rome. En Italie, c'était le centre du monde, c'était, pour pas dire le nombril du monde à cette époque-là. Et leurs noms sont latins, mais ils étaient d'origine juive. L'historien romain Suétone rapporte dans un ouvrage qu'il avait écrit à propos de l'empereur Claude, il va dire ceci, pour cette époque-là, dans ce moment à Rome, il va dire « Les Juifs provoquaient des tumultes en raison d'un certain Christus. » Voyez-vous, il se passait des choses à Rome à ce moment-là, et ce qui est en train de se passer, c'est que des Juifs convertis à la foi chrétienne, à la foi en Jésus, étaient remontés depuis Israël, et l'Évangile s'était répandu jusqu'à Rome, avant même que l'apôtre Paul n'y arrive des années plus tard. L'Évangile était déjà arrivé à Rome. Mais cet Évangile, qui annonçait Jésus comme le Messie venu sauver non seulement le peuple d'Israël, mais aussi toute l'humanité, il semait le trouble parmi les Juifs à Rome, cet évangile. Ça semait le trouble. Alors, il y avait les pour et les contre, puis ça discutait fort. Ils étaient perturbés par ça. Et ce trouble était tellement fort parmi eux que ça amenait un tumulte jusque dans la ville. Ce n'est pas des bons Nord-Vaudois qui sont tranquillement assis, puis qui discutent et qui sont extrêmement fâchés, frustrés au fond d'eux, mais ça ne se voit pas sur leur visage. Peut-être une certaine rougeur sur les joues, mais ça ne se voit pas autrement. Là, c'est le peuple latin, ça parle, il y a du tumulte, ça parle fort. Jusque dans la rue, ça créait du tumulte dans la ville de Rome. Pourtant, c'était une grande cité, mais ça arrivait au point que ça en dérangeait la ville et ça en dérangeait l'empereur Claude. Jusqu'à le déranger. C'est pas juste une petite émeute, c'était pas juste un petit week-end où ça, hein, il y a eu un peu d'échauffouré. Non, non, c'était devenu à un tel point que l'empereur Claude n'en pouvait plus lui-même. Imaginez-vous la situation. Et c'était devenu assez grave, assez sérieux. Ça avait fichu assez le chenil dans la ville que l'empereur va émettre un décret pour chasser les juifs de la ville de Rome. T'imagines un peu? Chasser les juifs de la ville de Rome. Pas juste un ou deux, les chefs de file, mais tout le monde. Je veux plus aucun juif dans cette ville de Rome. Terminé, fini, tout le monde s'en va. Je vous chasse. Imaginez-vous, c'est incroyable quand même. Incroyable. Aujourd'hui, où on parle de migrants, de migration, et d'accueil ou de non-accueil, ça résonne tout particulièrement. Aquilas et Priscille vont donc devoir fuir, s'en aller, précipitamment s'en aller de cette ville de Rome, de leur vie, leur maison, leurs amis, et ils vont descendre dans le sud, jusque dans la ville de Corinthe. Et là, ils vont travailler comme ils l'ont toujours fait, c'était leur métier, à fabriquer des tentes. Ça, c'est Priscille Aquilas. De son côté, l'apôtre Paul, lui, à ce moment-là, il avait entamé son deuxième voyage missionnaire. C'était son deuxième voyage missionnaire, et durant son deuxième voyage missionnaire, il va sillonner l'Asie mineure, durant son retour, il va faire comme une boucle, et durant son retour de voyage, il revient par Athènes, et il va passer par la ville de Corinthe pour évangéliser, pour aller dans la synagogue, pour essayer de parler de Jésus Sauveur, Jésus le Messie, dans les synagogues, et il va se passer des choses incroyables dans cette ville de Corinthe, alors que Paul passe par cet endroit-là, tellement incroyable qu'il va il va devoir y rester, passer un an et demi à Corinthe à ce moment-là. Et la Bible nous dit que Paul trouva un peuple nombreux qui attendait le message de l'Évangile assoiffé et qui se mit à croire en Jésus durant son passage. Un peuple nombreux. Et même, imaginez-vous, le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue, pourtant ceux qui souvent se fâchaient, s'irritaient, jetaient les nouveaux chrétiens en prison ou les faisaient emprisonner. Le chef de la synagogue, Crispus, et toute sa famille vont se donner à Jésus. Incroyable, extraordinaire. Alléluia. Imaginez-vous. Et durant ce temps, devinez chez qui l'apôtre Paul avait trouvé à loger à Corinthe ? Chez Aquilas et Priscille. Il va loger chez eux. Ils étaient maintenant, eux, arrivés à Corinthe et ils vont se retrouver, c'est fou quand même, le monde est petit comme on dit. Il se trouve à loger chez un couple qui avait le même métier que lui. Alors ça crée des liens, forcément. Hein ? Quand je me retrouve avec des pasteurs, allez, petits gars, on va discuter des vraies choses, comment ça va chez toi dans ton église ? Non, chez moi ça va bien. Tout à fait, très très bien. On dit toujours ça. Chez moi ça va bien. Combien de baptêmes l'année passée, tout ça ? On discute de ces choses. Non, c'est vrai. C'est quand on est passionné par son métier, si on n'est pas passionné, c'est autre chose. Mais quand on est passionné par son métier, par ce qu'on fait, on retrouve quelqu'un qui travaille dans le même secteur que nous, dans le même domaine, qui a étudié les mêmes choses, qui vit les mêmes combats, qui vit les mêmes défis, etc. On parle de ces choses-là forcément. Alors, il devait être content de s'être retrouvé, Priscille Aquilas avec l'apôtre Paul, et puis ils vont se montrer certainement leur technique. Je lis entre les lignes, mais certainement qu'ils vont se montrer leur... Ah, comment tu fais ? Ah, sérieux ? C'est nouveau ça, la technique du pointage là pour faire un petit pour coudre une tente, etc. Et ils se sont donné leur truc très certainement. Ils ont eu du plaisir à se retrouver et à partager ces choses-là ensemble. Mais en même temps, l'apôtre Paul va profiter. Il peut pas s'empêcher. Il va profiter de leur parler de ce qui le passionne, de ce qui le fait vibrer, de la parole de Dieu. Il va les enseigner, il va leur communiquer tout ce qu'il avait saisi, compris, ces révélations qu'il avait eues, des mystères qu'il appelait, de ces choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et qui ont été révélées avec la venue de Jésus. L'apôtre Paul avait compris tellement de choses, et ils vont partager ces choses-là en cousant leur tente, c'est extraordinaire. Jusqu'au jour où il était temps de passer plus loin. L'apôtre Paul était passionné pour continuer et à finir son voyage et à aller voir les chrétiens qui, dans son premier voyage, s'étaient convertis, avaient commencé à former des petites communautés, etc. Alors il va aller plus loin, il part dans la ville, il va rejoindre la ville d'Éphèse et il prend avec lui Priscille et Aquilas. Il les embarque avec lui, venez avec moi. Allez, on n'est pas un déménagement prêt, hop. Et là, Paul va continuer, lui, son voyage à Césarée, Jérusalem, à Antioche, pour fortifier les frères et sœurs qui avaient découvert Jésus durant ses autres passages et son témoignage. Et Aquilas et Priscille, eux, ils vont rester à Éphèse. Ils vont rester là à Éphèse, et là, ils vont faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Apollos, et qui prêche avec force et persuasion la parole de Dieu. Hein ? Ils l'entendent prêcher la parole de Dieu, mais ils vont se rendre compte assez vite que dans son message à Apollos, eh bien, il s'est arrêté à la révélation de Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Jean-Baptiste qui était le précurseur de Jésus, celui qui annonçait la venue de Jésus, lui, il s'est arrêté là. Ça voulait dire qu'il n'avait pas encore découvert le témoignage de Jésus, le Messie crucifié, ressuscité, et qui sauve et qui lave les péchés de ceux qui l'accueillent dans leur vie. Alors ce qu'il disait n'était pas faux. Mais il lui manquait un bout, c'était incomplet, et il lui manquait le meilleur des bouts. Alors, quand ils vont constater ça, ils ne vont pas s'asseoir puis dire « Oh la vache !» Tu sais, comme, pas ici dans cette église, mais dans certaines églises, tu sais, tu as le pasteur qui prêche, et puis les gens sont là, puis ils attendent qu'il fasse une petite erreur. « Ah, oui, j'avais dit, pas tout à fait juste ça. » T'as vu comme il fait ? T'as vu comme il dit ? Oh, pff, en plus, oh, j'étais un peu fatigué ce matin, ça n'a pas été... Pff, il a fallu s'accrocher. Puis toutes les 5 minutes, mes pensées partaient, puis hop, il fallait que je les ramène. Puis, oh là, qu'est-ce qu'il a voulu dire, au fond ? Ou alors, au contraire, qu'est-ce qu'il est excité, lui ? Oh là là ! Moi, j'ai besoin juste de quelqu'un de calme, parce que... Pff, hein, on se lève le dimanche matin déjà, c'est pas facile de se lever le dimanche matin, j'ai juste besoin d'un... Puis lui, qu'est-ce qui s'excite là devant nous ? Oh là 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 là, etc. Puis on est là. Et puis Priscille, Aquilas, eux, ils auraient pu s'asseoir et puis dire... Hein ? Il va passer quand à la vitesse supérieure ? Là, on est resté à Jean-Baptiste, baptême de repentance, tout ça, c'est quand qu'il va nous... Hein ? C'est quand qu'il va passer à la vitesse supérieure ? Franchement, il ne va pas s'arrêter là, non. Ah si. Il fait toujours comme ça, hein ? Non, il n'en sait pas plus que ça. Ils auraient pu dire ces choses-là, mais non. Ils vont le prendre discrètement, et puis ils vont lui dire, viens chez nous à la maison. Viens chez nous à la maison. Ils vont le prendre chez eux, et puis ils vont lui expliquer. J'aime cette façon de faire. J'aime cette façon de faire respectueuse. Ouais, quel beau signe d'amour, de respect, de ne pas le reprendre devant tout le monde, et puis de, avec amour et douceur, corriger ces choses-là. Ils vont prendre le temps, chez eux, à la maison, de lui expliquer plus en détail tout ce qu'ils avaient appris, eux, à travers leurs expériences, qu'ils avaient compris de la parole de Dieu, mais aussi à travers, certainement, tous ces moments qu'ils avaient passés à coudre des tentes, puis à écouter d'une oreille l'apôtre Paul qui leur enseignait pendant ces mois passés. Parler de Jésus, parler des Écritures, parler du salut, de la justification, etc., l'apôtre Paul. Et... leur enseignement et leur amour pour Apollos est tellement efficace que lorsqu'Apollos quitte Éphèse, parce que quelques temps après, il va quitter Éphèse et il va se rendre dans la région de Corinthe, Aquilas et Priscille, eux, qui ont habité là-bas, hein, rappelez-vous, ils vont écrire aux frères et sœurs qui sont là-bas à Corinthe et qui connaissent bien, ils vont leur demander de faire bon accueil à Apollos. Faites bon accueil à Apollos, laissez-lui la parole, allez-y, faites-lui une bonne place parmi vous. Et la Bible nous dit ceci, Actes 18-27, « Dès son arrivée là-bas, Apollos fut par la grâce de Dieu d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. » Alléluia. Il avait compris la nouvelle étape, l'étape d'après, le baptême de Jean, le baptême de repentance, il l'avait saisi parce que Priscille et Aquilas avaient pris le temps de le lui expliquer. Ça lui avait ouvert l'entendement, il avait compris ces choses-là. Et le Saint-Esprit avait fait le reste dans la révélation qui était la sienne maintenant. Et il pouvait la prêcher alors, l'annoncer avec force et autorité. Alléluia, c'est magnifique. Alors suite à ça, on perd un peu le fil de leur pérégrination. Mais on retrouve dans certaines salutations de l'apôtre Paul, dans ses épîtres, qui sont retournés à Rome, Priscille et Aquilas, et qu'ils accueillent des nouveaux chrétiens chez eux, à la maison, pour vivre cette église naissante qui se développait un peu partout, et l'église des premiers temps à Rome. Ce n'est pas merveilleux, ça? Ils retournent à Rome, là où ils avaient été chassés. Quelle belle histoire! Quelle histoire extraordinaire! Alors vous me direz, quoi d'héroïque chez ces deux personnes? J'aimerais regarder avec vous trois points. Premièrement, ils ne laissent pas les épreuves de la vie les déstabiliser. Quels sont ceux au milieu de nous qui ont déjà été déstabilisés par des épreuves de la vie qui nous arrivent? Je regarde bien les mains. À chacun d'entre nous, c'est arrivé. Chacun d'entre nous. Et souvent, ça arrive sans crier gare. On ne les attend pas. Et puis, on est souvent dans la réaction dans ces moments-là. Et là, Priscille et Aquilas sont comme un exemple pour nous, comme un exemple pour moi-même. Plus je creuse leur histoire, plus je suis émerveillé de voir comment ils ont gardé le cap. Ils vont se retrouver au milieu de leur communauté juive de Rome à devoir se positionner pour ou contre cet évangile nouveau de Jésus-Christ le Messie. Déjà juste ça. Au milieu de leurs amis, là, il y a des amis, certainement des gens de leur famille, des gens avec qui ils ont cheminé, évolué à travers les années à Rome, et des gens qui ont dû les voir grandir, qui les ont vus se marier, certainement, qui ont fêté avec eux. Les communautés juives de la diaspora, elles sont souvent soudées comme une famille. Et là, il commence à y avoir des disputes, des discordes. Mais plus que ça, des engueulades, du tumulte. Déjà là, c'est un défi au milieu de tout ça de garder le cap. Aquilas et Priscille ont dû souvent se parler entre eux au retour de leur rencontre à la synagogue, des réunions, des rencontres à Rome. Et est-ce qu'ils ont été touchés par le message de Jésus tout de suite? Est-ce qu'ils ont été touchés ensemble, en même temps ou à intervalles? On ne le sait pas vraiment. Mais ils ont expérimenté Jésus en eux par le Saint-Esprit à un moment donné. Et ils se sont accrochés à lui. Mais ce n'est pas la seule épreuve à laquelle ils vont devoir faire face à cause de ces tumultes. On l'a vu tout à l'heure, l'empereur Claude va les chasser de cette ville qui les a vus grandir, à laquelle ils devaient être attachés, parce que les Juifs le dérangent. Ils font trop de bruit, ces Juifs. Hop, un petit décret. On les chasse sans considération, sans ménagement, sans scrupule. Il faut s'accrocher au milieu de tout ça. Au milieu de ce genre d'épreuve. Sans compter qu'ils doivent tout recommencer à zéro. Quand tu as monté un business, on fabriquait des tentes, ils devaient avoir leurs clients dans la région, etc. Et il faut recommencer. On part, on fuit. Et puis il faut recommencer à zéro à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, Corinthe. Puis après l'apôtre Paul, il trouve rien de mieux que de nous dire « Allez hop, hop, on va à Éphèse, hop, 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 avec moi là les gars, pst, hop ». Et ils le suivent, ils vont à Éphèse et ils recommencent de nouveau. Pour finalement retourner à Rome, on ne sait pas par où ils ont passé encore, entre deux peut-être. C'est des trucs à te casser un couple si tu n'es pas solide, ça. Mais Dieu avait la main sur ses enfants. Et il avait prévu à chaque fois des solutions. Et ils ont manqué de rien. Je peux le dire pour ma vie, à chaque fois que je suis passé par des temps de tempête, des temps d'épreuve, des temps où tout à coup quelque chose n'arrivait pas comme je voulais, où tout à coup tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. Tu te demandes si tu ne vas pas te retrouver sous un pont à vivre la gracieuseté des gens. Je peux l'attester, j'ai jamais manqué de rien. Jamais j'ai manqué de rien. Et si Dieu s'occupe des petits oiseaux qui nourrit les moineaux, à combien plus forte raison il ne va pas s'occuper de ses enfants, de ceux qu'il aime, de ceux qui marchent avec lui. Et Aquilas et Priscille ont expérimenté ça. Ils ont manqué de rien. J'aimerais vous dire ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu est le Dieu de toutes les circonstances de nos vies, de toutes les circonstances de nos vies. Parfois, on est dans le désarroi. Parfois, je suis dans le désarroi par rapport à ce qui m'arrive. Parfois, je suis dans le désarroi même en tant que pasteur face à quelque chose qui arrive chez mon frère ou ma sœur. Que dire? Que faire? Comment réagir? Comment prier? Des fois, le silence est plus important que les paroles. Dieu est le Dieu de toutes les circonstances de nos vies, même si on ne les comprend pas toujours. Parfois, il permet. Parfois, il teste. On l'a vu la dernière fois avec le personnage de Joseph. Et si nous choisissons de lui faire confiance et de marcher dans l'obéissance, en cherchant à être utile entre ses mains, à être des témoins là où il nous place, on verra Dieu à l'œuvre. Je le crois. Premièrement, il ne laisse pas les épreuves de la vie les déstabiliser. Il s'accroche à Dieu. Il faut confiance que Dieu est le Dieu de chaque circonstance. Deuxièmement, ils n'ont pas peur ni honte de l'Évangile. Dans un contexte de persécution, dans un contexte où la première église était malmenée, où les chrétiens qui osaient remettre en question la foi juive et ou qui venaient déranger les bons vieux romains, étaient souvent persécutés, tués, mis à mort, emprisonnés, fouettés, lapidés. Et pourtant, ils n'ont pas honte de l'Évangile au milieu de tout ça. Quel exemple ! Quel exemple ! Quel exemple pour nous aujourd'hui qui... Alors que nous ne vivons pas la persécution comme eux la vivaient, souvent, on manque d'hardiesse pour témoigner de l'Évangile, il y a de la crainte qui est là, il y a de la peur, il y a des appréhensions, il y a des... Quel exemple ? Pourtant, Priscille Aquilas avait été chassé de Rome. Certainement pas avec les honneurs et le tapis rouge. Et plus tard, l'apôtre Paul dira ceci, et c'est vraiment étonnant et surprenant et touchant. Il dira qu'ils lui ont sauvé la vie. Romains 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Incroyable quand même. Je ne suis pas le seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Waouh ! Alors, on ne sait pas comment et dans quelles circonstances, j'aurais bien voulu savoir, je me réjouis d'être là-haut, hein. Il y a plein de choses, j'ai plein de questions à plein de monde. Quand j'arriverai là-haut, ça va prendre une moitié d'éternité déjà pour poser mes questions et faire le tour un peu de tous ces personnages qu'on a creusés, qu'on aime dans la parole de Dieu et qu'on va pouvoir voir là-haut et on se réjouit de ces moments-là dans l'espérance. Mais on ne sait pas vraiment comment, la Bible ne nous le dit pas, dans quelles circonstances ils ont pu sauver la vie de l'apôtre Paul. Et d'autres personnes. Certains commentateurs pensent qu'ils auraient pu utiliser leur influence pour aider l'apôtre Paul à sortir de prison, mais on n'est pas certain de comment tout ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont risqué leur vie. Littéralement, dans le grec, ça dit qu'ils exposèrent leur cou. C'est assez explicite, hein. À cette époque-là, ça marchait à l'épée, ça marchait à la hache. Ils exposèrent leur cou. C'est quand même pour l'apôtre Paul. Pour l'apôtre Paul. Pas pour eux-mêmes, pas pour un truc qui leur tenait à cœur, pas pour quelque chose qu'ils voulaient garder et qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre. Pour l'apôtre Paul. Pour leurs frères. Hein? Incroyable. Ils se sont rendus vulnérables. Ils ont risqué gros. Ils ont risqué leur vie pour les autres. Si ce n'est pas de l'héroïsme, ça. Et plus loin, l'apôtre Paul dira que toutes les églises des pays païens ont de la gratitude envers eux. Ils ont cette passion, Priscille Aquilas, qui ne les fait pas reculer. Partout où ils passent, ils cherchent à faire du bien. Ils cherchent à faire du bien. C'est pour ça que toutes les églises sont reconnaissantes envers eux. Quand on est dans une attitude de généreuse, on cherche à faire du bien, eh bien ça touche autour de nous. Et il y a quelque chose qui est au-delà des paroles. On cherche à faire du bien, ça touche, ça interpelle les gens autour de nous et ça marque. À ce stade de mon message, Et en le préparant, je me suis arrêté quelques instants sur ma vie. J'aime bien faire ça, pas juste prêcher aux autres. Est-ce que je suis quelqu'un qui cherche à faire du bien ? Mathieu, est-ce que tu es quelqu'un qui cherche à faire du bien dans les circonstances de ta vie, dans les circonstances dans lesquelles Dieu te met ? Est-ce que lorsque je rencontre quelqu'un, je lui veux du bien ? Ou est-ce que je le scanne de haut en bas, de gauche à droite, de devant, derrière, et je cherche à trouver ce qui ne va pas chez cette personne ? La nature humaine, elle est tellement prompte à cela, à trouver ce qui cloche, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être naïf et se laisser abuser par le premier malhonnête venu. On est d'accord avec ça ? On n'est pas des chrétiens qui courbons les chines à chaque fois qu'on veut nous faire du mal, etc. Et puis que, on a le droit de dire que ça ne va pas. On a le droit de dire qu'une relation n'est pas saine, n'est pas bonne, et de dire, je ne peux pas continuer cette relation pour un temps, je ne peux pas continuer là, ça ne me fait pas du bien, ça ne fait pas du bien à ma famille, ça ne fait peut-être pas du bien à mon couple, ça je coupe, ça j'arrête. Ça c'est ok, je ne parle pas de ces choses-là. Ça, parfois c'est important de poser ces choses-là en tant que chrétien. Des fois c'est vrai, je parlais avec une sœur dernièrement, des fois c'est vrai, on a tendance à juste se laisser flageller, par frapper et faire du mal par les autres, parce qu'on doit aimer en tant que chrétien, et puis on doit supporter toutes ces choses-là. Parfois, Dieu nous fait passer sur des chemins où on doit supporter des choses. On sait, la vie chrétienne, le cheminement est comme ça. Mais parfois aussi, c'est à nous de dire, non, stop, cette relation, elle me fait du mal, fait juste me détruire, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est pas juste, c'est pas sain, c'est pas normal. Et ça, c'est important de le dire en tant que chrétien. Mais je parle de cette propension qu'a la nature humaine, parfois, de regarder les autres, de regarder une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. Et puis le scanner. Regarde un peu trop maquillée, cette femme. Regarde un petit peu, lui, les chaussures sales. Lui, t'as vu ? Il y a un petit accent quand il passe, un étranger ou pas ? Méfiance. Mais t'as vu la couleur de sa peau, lui ? Il vient du sud, hein ? Il vient du sud. Ou du demi-sud, si c'est un métis. Hein ? Hop, on scanne. On fait du jugement, on pense des choses, etc. Je pourrais aller longtemps pour faire des sketchs là-dessus. C'est notre propension qu'on a. T'aimes pas les pasteurs avec la cravate, c'est ça ? J'entends ce que tu dis, Steph. Hein. Tu vas voir la fin de mon message, ça va être pour toi que tu vas t'avancer à l'appel tout à l'heure. Je suis juste en train de chercher où je me suis perdu dans mes notes. Faites une pause, dites bonjour à votre voisin, dites à votre femme que vous l'aimez ou l'inverse. Je suis perdu dans mes notes, c'est hallucinant ça quand même. Ah non, c'est ici. Ah oui, c'est ça, voilà, je suis là. Est-ce que faire du bien est une préoccupation dans notre vie? Sommes-nous connus pour faire du bien autour de nous, là où Dieu nous a placés? Est-ce qu'avec les gens de notre entourage, est-ce que les gens de notre entourage peuvent dire de nous qu'on leur fait du bien? Est-ce que je suis quelqu'un qui bénit plutôt ou qui maudit trop facilement? Faire du bien. Dernièrement, mon troisième point, ce matin, ils ont la même passion pour faire des disciples. Ils ont la même passion pour faire des disciples. Lorsque nous venons à Christ, selon Matthieu 28-19, nous sommes appelés à aller et à faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est exactement ce qu'ont fait Aquilas et Priscille en entendant Apollos. Ils vont constater qu'il avait du chemin à faire encore. Ils parlent de Jean-Baptiste, de repentance, etc. Et ils voient en lui le potentiel en même temps. Ils auraient pu se dire, comme il n'a rien compris, lui, on a d'autres choses à faire, hein, moi je vais m'occuper de ceux qui filent droit, etc. Ils vont le prendre sous leur aile parce qu'ils ont vu le potentiel chez lui. Ils ont discerné que Dieu avait mis quelque chose sur sa vie. C'était un excellent orateur passionné pour réfuter les fausses pensées. Ils vont prendre du temps avec lui. Ils vont le prendre sous leur aile. Ils vont investir en lui. Ils vont lui expliquer les choses que Paul et d'autres leur avaient expliquées à eux. Ils vont redonner Voyez-vous, ils vont redonner. Ils vont redistribuer. Et ça va être tellement précieux, tellement bénéfique, tellement utile pour les églises et pour le royaume de Dieu. Parce qu'après ça, Apollos a prêché, a réfuté toutes les doctrines des Juifs qui n'avaient pas encore saisi cela et qui voulaient rester dans l'ancienne alliance. Proclamer la vérité, la liberté. J'aimerais nous dire ce matin que cette question de faire des disciples, elle est primordiale dans l'Église. Elle est primordiale dans l'Église. Parmi ceux et celles qui ont reçu ce salut et qui ont compris ce que Jésus a fait pour nous, tout comme Aquilas et Priscille l'ont fait avec Apollos, et certainement avec bien d'autres qui ne sont pas explicitement cités dans les Écritures, ils ne sont sûrement pas contentés de faire juste ça avec Apollos. Ils ne sont pas contentés de leur salut, puis je vis ma vie comme je le peux. Non, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas garder ça pour eux. C'était comme un feu, une passion, un sens de cette responsabilité de propager, de redonner, de redistribuer à leur tour ce que Dieu avait fait dans leur vie, faire des disciples. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps et que vous venez le dimanche et que vous en avez entendu des messages et que vous avez fait des séminaires, et que vous en avez fait des conventions, des formations, des camps, des week-ends d'église, des voyages missionnaires, des voyages en Israël, des semaines de jeûne et prière, etc. Et que vous avez, vous savez plus quoi faire après tout ça. J'aimerais vous dire, faites des disciples. Faites des disciples. Redonnez. Redonnez ce que vous avez reçu. Si ça doit devenir la quête que vous poursuivez pour le restant de votre vie, alors faites-le. Faites-le. C'est à ça que Dieu désire que nous nous appliquions, redonner ce qui nous a été donné par grâce. C'est tellement un principe divin, mes frères et sœurs, c'est tellement un principe divin. C'est à cela que Dieu désire que nous nous appliquions. C'est le principe même de qui est Dieu, de qui Dieu est. C'est un Dieu qui donne, un Dieu qui redonne constamment, en permanence. Il l'a fait avec son Fils unique, évidemment. Il nous a donné cette grâce que nous ne méritons, que nous ne méritions pas. Il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné ses dons, il nous a donné l'armure du chrétien, il nous a donné la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Il nous a donné la vie éternelle et on pourrait continuer comme ça à l'infini parce qu'il nous a tout donné, en fait. Il nous a tout donné. On a tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole. Colossiens 2:10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, il a tout donné. Il nous a tant donné, donnons aussi à notre tour, redonnons, ça ne se peut pas autrement. Ça ne se peut pas autrement, sinon on ne représente pas pleinement Christ qui est en nous. C'est un mandat qu'on a, ça nous concerne tous, on a tous à donner quelque chose. De quelque chose que Dieu a fait en nous. De choses spirituelles qu'on a acquises ou qu'on a compris. Redonnons. J'aimerais nous donner cet exercice à faire ce matin. Prenons quelques instants juste pour penser à quelqu'un, ou laisser le Saint-Esprit nous faire penser à quelqu'un qui a une foi un peu chancelante autour de nous, qu'on connaît, qui a une foi un peu chancelante. Je sais que certains le pratiquent déjà et c'est tellement, vous êtes tellement un encouragement. Il y en a plein dans cette église qui pratiquent déjà ça. Alléluia. Vous êtes un encouragement pour moi, une bénédiction pour l'église et le corps de Christ et le royaume de Dieu. Pensez à quelqu'un qui a une foi chancelante, qui est quelqu'un qui est en recherche, quelqu'un qui tâtonne, un Apollos. Peut-être que tu serais appelé à lui redonner quelque chose. Quelque chose de ce que Dieu t'a donné un jour dans ta vie. Déverse en lui, déverse en elle ce qui est en toi que Dieu a placé, que Dieu a mis, que Dieu t'a donné, que Dieu a fait couler en toi. Et pour ça, pas besoin d'être pasteur, bonne nouvelle. Pas besoin de maîtriser l'art oratoire. Pas besoin d'avoir fait l'école biblique ou d'avoir vécu des miracles à répétition. Priscille et Aquilas n'ont jamais été sur le devant de la scène, en tout cas pas dans les textes de la parole de Dieu qu'on lit. On parle d'eux de manière succincte dans la parole de Dieu. Pas besoin d'être au top du top pour être utile dans la maison de Dieu. entre ses mains. Les textes qui parlent d'eux ne citent pas des grands miracles, ne citent pas des résurrections ou le feu du ciel qui tombe. Même si toutes ces choses, elles sont présentes dans la parole de Dieu et Dieu les utilise, les a utilisées, il est capable de les utiliser encore. Mais partout où ils ont été, Priscille Aquilas, dans chaque église, sans exception, le texte qu'on a lu tout à l'heure nous dit toutes les églises des pays païens par lesquels ils étaient passés, toutes, elles avaient leur gratitude. Enfin, ils avaient la gratitude de toutes ces églises. Chacune, toutes. Chacune de ces églises, chacun de ces chrétiens qui étaient là ont été touchés par leur vie, ont été touchés par leur amour, sans compter. Ils ont été touchés par leur oubli d'eux-mêmes pour être tournés vers les autres, vers leur gratitude. Ils ont été touchés par cela. Quel bel exemple d'un couple uni et utile entre les mains de Dieu. Ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles, ça embellit l'épouse, ça embellit l'Église. Et je prie que cet exemple nous fasse envie et soit une inspiration pour tous les couples dans l'Église, mais chacun d'entre nous aussi. Ceux qui ne sont pas en couple, les célibataires, les solobataires, ceux qui ont vécu des difficultés, peut-être par le passé dans leur couple. C'est un exemple pour chacun, chacune d'entre nous, peu importe. Peu importe leur consécration, leur amour, on peut semer dans les autres, qu'on soit en couple ou pas, on peut semer dans les autres, on peut investir, on peut redonner aussi, on peut faire des disciples. L'apôtre Paul n'était pas marié et il faisait des disciples partout où il passait. Leur consécration, leur amour, leur désir de propager la bonne nouvelle de Jésus est une inspiration ce matin pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Amen. Je propose qu'on incline simplement la tête. J'aimerais prier. Merci pour cet exemple, Seigneur, dans ta parole. C'est un parmi tant d'autres. Ta parole est tellement bienfaisante, elle est tellement nourrissante, elle est tellement bonne, elle est tellement vivante aujourd'hui encore, en 2016. Et vivifiante. Alléluia. Je te remercie pour cet exemple de Priscille Aquilas qui est accessible pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. L'exemple de gens qui ne recherchaient pas les paillettes de la gloire, mais qui avaient une passion en eux, qui étaient prêts à leur faire surmonter les obstacles, la fuite, le rejet, d'avoir été chassés de quelque part, d'avoir même bravé la mort à un moment donné pour pouvoir être en aide à un frère. Et que cette passion était tellement vivante, était tellement là en eux qu'ils avaient envie de la propager, ils avaient envie de la redonner, ils avaient envie de la partager autour d'eux. Seigneur, je prie que tu nous rendes comme cela. Seigneur, nos couples dans cette église, Seigneur Jésus, que tu nous rendes solides comme cela, Seigneur Jésus. On fait face souvent à des vents tellement contraires dans ce monde d'aujourd'hui. Au défi d'une vague de pensées démoniaques et sataniques qui essayent de briser les couples, qui essayent de briser les familles. Et des défis avec nos enfants qui n'existaient pas avant. Et des tentations qui se présentent à notre porte, dans les couples, mais aussi parmi nos enfants. Et quand on voit nos enfants qui tout à coup succombent à ces tentations en tant que parents, quel défi est là ? Sans compter tout le reste, le travail, le chômage, la santé, etc., la pollution dans ce monde et qui est une préoccupation pour beaucoup. Nous avons besoin de nous tenir en toi, Seigneur. Que tu viennes nous fortifier, Seigneur. Que tu viennes nous redonner ta vision à toi de ce que tu désires de nos couples, de nos familles, Seigneur Jésus. Et tellement un encouragement ce matin aussi. Pour ceux qui ne sont pas en couple, peu importe, Seigneur. Comme un encouragement pour leur dire aussi de persévérer. Que tu veux les utiliser. Que même s'il y a leur lot de souffrance à eux, à elles aussi, certains sont en recherche et souffrent. D'autres souffrent parce qu'ils sont séparés ou divorcés et ou qu'ils ont perdu l'être cher. Et tu es là pour les relever parce que tu n'as pas terminé ton œuvre encore avec eux, avec elles, Seigneur. Parce que tu veux les encourager ce matin en leur disant, ta vie, je peux l'utiliser telle qu'elle est maintenant, telle que tu es, je peux t'utiliser. Je ne m'attends pas de toi des grands exploits, simplement. Sois disponible entre mes mains, j'aimerais t'utiliser pour semer ce que j'ai mis dans ta vie à d'autres. Même si toi, ça te paraît insignifiant, pour quelqu'un, ça va être utile, ça va être primordial. Ton témoignage pour quelqu'un va être peut-être déterminant. Alléluia, Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici, chacun d'entre nous, là où on en est, dans nos situations, nos réalités quotidiennes, nos réalités de notre situation, je prie, Seigneur, que tu viennes nous rejoindre et que tu nous fasses du bien ce matin. Que tu nous donnes ce courage d'être des témoins vivants comme Priscilla et Aquilas, des témoins vivants là où on est, malgré les ouf, malgré les moments pas faciles des fois, malgré les sentiments de rejet, malgré toutes ces choses qui peuvent nous arriver à nous encore aujourd'hui, de nous tenir fermes, de ne pas avoir honte de l'Évangile, de ne pas avoir peur d'être des chrétiens vivants là où on est. Et je prie que tu nous donnes au-delà de ça un désir de redonner, un désir d'investir. Je prie que dans les prochains jours, tu déposes sur notre cœur, à chacun, chacune d'entre nous, ceux qui le désirent au milieu de nous, que tu viennes déposer sur notre cœur une personne, un visage, un nom. Quelqu'un à qui on pourrait, dans la vie de qui on pourrait investir, donner un petit quelque chose, prier, s'approcher de cette personne-là, l'inviter à manger à la maison et se mettre à parler de ce que tu as fait dans nos vies, se mettre à parler de quelque chose que tu as fait dans nos vies qui va être déterminant pour cette personne. J'ai pris cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
J'appelle 6 personnes pour venir m'aider à